Trainville PM. La voie est libre.
Wow! Ça, c'est une nouvelle, mes amis.
Inattendue et étonnante.
Très, très, très étonnante. Alors, Gérald Botts, que vous connaissez probablement pas, à moins de suivre la politique très, très, très activement, mais c'était sans aucun doute l'homme le plus influent, juste derrière Justin Trudeau.
Depuis longtemps, d'ailleurs, depuis qu'il est chef du Parti libéral et qu'il a fait gagner l'élection, c'était le principal cerveau derrière ça.
Ah, puis il y avait avant ça, leur amitié commence à McGill quand ils étudiaient ensemble.
Fait, c'est ça, c'était comme des frères.
Vraiment, tout à fait, tout à fait. Et là, il quitte. Tu veux nous résumer un peu ce qu'il dit dans sa lettre de démission, Luc?
Alors, il dit, ben, je vais le citer là, pour quelques phrases, parce que je pense que les mots sont importants. Récemment, des sources anonymes m'ont accusé d'avoir fait pression sur l'ancienne procureure générale, l'honorable Jody Wilson-Raybould, afin d'offrir à SNC-Lavalin la possibilité de négocier un accord de réparation. Je nie catégoriquement les allégations selon lesquelles moi ou un membre de ce cabinet aurait tenté d'influencer Mme Wilson-Raybould. Nous respectons le rôle unique qu'est celui de procureur général. Mon entourage et moi avons agi avec intégrité et dans le meilleur intérêt des Canadiens en tout temps. Mm-hmm. Et il répète un paragraphe plus loin. Toute allégation selon lesquelles moi ou un membre de notre personnel aurait fait pression sur la procureure générale sont simplement fausses. Quant au reste de sa lettre de démission, qui est relativement longue, c'est très émotif. Il réaffirme sa croyance profonde dans la lutte au gaz à effet de serre en disant que c'est le prochain défi d'une génération. Il remercie Trudeau de lui avoir permis de vivre cette expérience extraordinaire. Il prend aussi le temps, et je le cite encore une fois, « J'aimerais offrir quelques mots à propos de la relation que j'entretiens avec Mme Raybould Wilson. » Je l'ai encouragé à se présenter aux élections sous la bannière libérale. J'ai travaillé d'arrache-pied pour l'appuyer en tant que candidate et en tant que membre du Conseil des ministres. De mon point de vue, notre relation a toujours été définie par le respect mutuel, la franchise et un véritable désir de travailler ensemble. Alors, comment interpréter tout ça? D'abord, il m'est revenu rapidement en mémoire une phrase que Marcel Mas, de regrettée mémoire, qui a été ministre de l'Union nationale au Québec et ministre du gouvernement conservateur de Brian Mulroney, m'avait dit un jour. Il m'avait dit, parce que j'étais un staff politique, il m'avait dit, tu sais, entre autres, c'est quoi le rôle d'un staff politique? C'est d'être le cul dans lequel on se met le pied quand ça tourne mal. Alors, c'est comme une façon imagée d'expliquer que moi, évidemment, on analyse à chaud, là. Ça vient juste d'arriver, là, puis on n'a pas eu le temps de discuter avec un puis avec l'autre. Mais il m'apparaît évident qu'il y avait besoin d'action dans ce dossier-là, que quelque chose devait débloquer quelque part, qu'il fallait que quelque chose se passe. Puis dans ce temps-là, ben, une des choses qui est offerte au premier ministre, c'est de faire sauter du staff autour de lui.
C'est ça, c'est un breaker, le breaker qui saute, la fusée.
C'est ça, parce que le concept de notre système parlementaire est un concept qui repose sur la confiance, et on faut jamais donc s'approcher du chef puis mettre en doute la confiance que la Chambre peut avoir envers lui.
Mais la première phrase, c'est « J'ai soumis ma démission ». En tant que secrétaire principal de Justin Trudeau, premier ministre, il a accepté ma démission. Il aurait pu la refuser. S'il l'a accepté,
c'est arrangé avec le gars des vues.
C'est qu'il sentait le besoin aussi de sacrifier quelqu'un, là.
Ben, moi, quand je lis ça, Bernard, ce que je comprends, c'est que Jerry Butts, parce qu'on l'appelait Jerry, et M. Trudeau ont dû converser en fin de semaine et convenir d'agir ainsi. Là. Le reste, c'est du langage protocolaire. J'ai soumis, il a accepté, blabla, bon. Je pensais plutôt, écoute, Jerry, ça me brise le cœur, ça n'a pas de bon sens, mais je pense qu'il va falloir que tu partes.
Mais tu sais qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de critiques hein, sur le fonctionnement du bureau du premier ministre ces derniers mois, et en particulier ces derniers jours, parce que toute cette histoire-là de SNC-Lavalin a amené certains commentateurs qui suivent de très près l'actualité politique canadienne, puis qui sont très branchés sur Ottawa, puis le fonctionnement du gouvernement fédéral, puis du bureau du premier ministre. Ça les a amenés à dire que Butts et Katie Telford, qui est la numéro 2, qui, elle, reste jusqu'aux dernières nouvelles, elle est toujours là, emmenait très, 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 très large. Et il y a des papiers qui ont été écrits, notamment par Paul Wells, qui est un excellent chroniqueur, pour dire que il y a certains jours, c'était Butts, celui qui vient de partir, et Telford qui, dans les faits, dirigeait le cabinet du premier ministre parce que Trudeau n'était pas toujours très, très décisionnel. Il laissait des fois un peu surfer l'affaire. Oui. Il se contentait d'être un premier ministre parfois d'image. Et les vraies décisions étaient prises par Butts et Telford.
Sauf qu'avec toute ton expérience journalistique et politique, tu sais comme moi qu'à un moment ou à un autre, pratiquement tous les premiers ministres ont reçu ce type de critique-là.
C'est vrai.
Alors, je veux dire, Jean Pelletier avec Jean Chrétien. C'est lui qui dirige le gouvernement.
Et comment il s'appelait? Goldenberg.
Eddie Goldenberg. Dans le temps de Brian Mulroney, c'était Derek Burney. C'est lui qui mène le cabinet.
Ou encore Bernard Roy.
Accusations...
Paul Tellier aussi, hein, président Tellier, du greffier du conseil privé.
Oui. Alors, c'est ce type de commentaire-là est très habituel. Le gouvernement de style parlementaire britannique est un gouvernement fortement centralisé dans sa façon de fonctionner.
Ah oui.
Où tu as trois niveaux au centre. Tu as le cabinet du premier ministre, le conseil privé et le conseil du trésor, qui sont les trois organes centraux du gouvernement par où tout doit transiter.
Exact.
Et le premier ministre ne peut pas, que ce soit Justin Trudeau ou un autre, ou Jean Chrétien ou Stephen Harper, voir à tous les détails de l'appareil gouvernemental. On me dira, il y a la fonction publique qui est là pour ça, sauf que quand tu es un politicien élu, tu veux t'assurer que la sensibilité politique, qui n'est pas nécessairement le premier des critères d'un fonctionnaire, soit toujours au cœur des affaires. Alors moi, cette accusation-là, ça m'indiffère, okay, j'ai entendu trop souvent.
Quelle lecture tu fais du fait qu'il laisse partir Butts? Est-ce que tu penses que c'est... Puis là, on est dans la conjecture, là, oui, vraiment dans les hypothèses à chaud, comme tu disais tout à l'heure. Mais est-ce que c'est pas... Le fait qu'il l'a accepté, est-ce que c'est pas la reconnaissance qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans son entourage? Et dans le fond, la crise autour de SNC-Lavalin, c'est l'occasion pour lui de changer le mode de fonctionnement au bureau du premier ministre. Parce que sinon, il laisserait pas partir son numéro 1, ça serait le numéro 2 ou le numéro 3 qui sauterait.
Ben moi, je vais t'en soumettre une hypothèse à chaud, encore une fois. Madame Wilson-Raybould, éventuellement, va parler.
C'est clair.
Bon, elle va-tu parler demain? C'est-tu après-demain? Est-ce que c'est cette semaine? Et si elle parle puis qu'elle lance une attaque frontale contre Butts puis qui est toujours en poste, là, ça devient une drôle de crise à gérer. Alors, c'est peut-être, comme on appelle en anglais, un preemptive strike. Oui. Là, c'est une manière de dire, regarde, tu peux bien frapper, il n'est plus là. Alors, moi, je vois ça venir. Wilson-Raybould, faut bien comprendre, elle peut carrément pas rester silencieuse éternellement.
Non, non.
Et se cacher derrière le secret professionnel.
D'ailleurs, ils ont reçu en fin de semaine, je l'ai dit ce matin à l'émission de Paul, ils ont reçu en fin de semaine le PMO, le cabinet du premier ministre, un avis juridique, oui, sur la levée du secret professionnel, oui, avocat-client.
Oui.
Et Trudeau doit décider ce qu'il fait avec ça. Il doit décider s'il lève le secret au complètement ou partiellement. Et donc... Ou bien Raybould va parler parce qu'on a levé le secret, parce que Trudeau l'a, oui, levé, ou elle va parler autrement, des sources anonymes révèlent que blablabla. Bla bla. On s'entend là-dessus, elle va parler, sinon elle n'aurait pas démissionné.
Mais sinon, elle va passer pour une folle, franchement. Tu peux pas démissionner comme ça puis laisser tout le monde en plan. Elle dit, et ça semble être le cas, elle dit qu'elle, je veux dire, ça, c'est clair qu'elle est sous l'impression qu'on a fait des pressions indues sur elle pour influencer sa décision de, exact, procureur général. C'est clair qu'elle pense ça. Mais un jour ou l'autre, il va falloir, avec une crise qui a pris toute cette ampleur-là,
qu'elle nous dise qui a fait pression.
Oui, oui. Mais je te rappelle, sous quelle forme?
Je te rappelle que l'information est sortie qu'en décembre. Oui. En décembre, au Château Laurier, si je ne m'abuse, Butts a rencontré Wilson-Raybould.
Oui.
Et ça se pourrait que Wilson-Raybould, comme tu le dis, lorsqu'elle va parler,
oui,
on the record ou off the record, on verra bien, mais lorsqu'elle va parler, ça se pourrait qu'elle mette en cause la rencontre de décembre,
ben oui,
et qu'elle dise, dans le fond, c'est là que le cabinet du premier ministre m'a donné la directive.
Alors moi, je pense que c'est ça la raison pour laquelle Butts s'enlève du chemin. Il sait qu'il va être visé directement. Maintenant, il dément catégoriquement. J'imagine que ceci signifie que s'il devait y avoir une judiciarisation de tout cela sous une forme ou sous une autre, il va se défendre avec tous les moyens à sa disposition, mais il sera plus le gars qui devient une distraction pour le gouvernement.
Puis je te rappelle, Luc, puis il faut que nos auditeurs en prennent acte, demain, la Chambre des communes recommence à siéger parce qu'aujourd'hui, c'est congé en Ontario. Et la semaine passée, il siégeait pas. Mais demain, c'est période des questions pour Justin.
Oui.
Ça va être un feu nourri comme probablement il n'en a pas connu depuis qu'il est premier ministre en 2015.
Fort probablement, et là, ce qu'il a vu de plus dur, oui.
Et là, la démission de Butts devient une sorte de bouclier pour,
oui,
lui.
Oui, tout,
hein,
à fait.
On s'entend, hein?
Tout à fait. Monsieur Botts a quitté, ceci m'a fait beaucoup de peine. Ça va être ce genre.
Ouais, ouais.
Mais il assume ses responsabilités, il dit que c'est faux, patati patata, bon. Et ça va être une sorte de provocation ou d'appel du pied à Mme Raybould-Wilson, Wilson-Raybould. Faites quelque chose! Vous pouvez pas laisser tout le monde comme ça suspendu en l'air.
Mais...
Et pendant ce temps-là, Bernard, ce qui vient compliquer singulièrement ta position et la mienne, qui est, faudrait quand même sauver le siège social puis tout ça,
c'est, pas parti pour
c'est
ça,
que Monsieur Bébaoui, je pense, qui était un des accusés de chez SNC-Lavalin.
Son procès a été...
C'est-à-dire que la plupart des accusations ont été retirées à cause d'un Jordan. Vous avez l'autre qui s'appelle Stéphane Roy, qui était un contrôleur financier.
Il plaide la même chose.
Il plaide la même chose, Jordan. Et... Ça fait 5 ans qu'il attend son tour. Il va probablement gagner. Puis à côté de ça, t'as Pierre Duhaime qui passe 2 ans de prison assis dans son salon à regarder le hockey. Je veux dire, c'est pas exactement des grosses punitions.
Non.
Alors, ça devient politiquement extrêmement difficile à gérer, ce dossier-là. Parce que là, les gens commencent à dire, ben, coudonc! Même ceux qui achetaient notre argument, Bernard, commencent à dire, ben, coudonc, il y a personne qui va être puni dans ça. Les bombes en cravate sont à peine punies. Ils s'en sortent sur des technicalités.
Ouais, ou encore les accusations sont abandonnées parce que ça a pris trop de temps.
Oui, ben, peu importe,
ouais,
mais ils sont pas punis. C'est ça que je dis.
Je le sais. Alors, mais moi, je continue à dire qu'il faut sauver SNC, tabarouette.
Ben, moi aussi, je le pense.
Je sais que politiquement...
Mais ce que je suis en train de dire aussi, Bernard, c'est que d'être réaliste, c'est d'admettre que nos chances que ça marche sont pas bien fortes.
Ben, je vais te dire, Trudeau, là, moi, le conseil que je lui donnerais, c'est all-in. Vas-y.
Ah oui.
Parce que là,
Il est trop avancé.
Il est trop avancé, puis il risque de tout perdre. Il a perdu beaucoup de crédibilité là-dedans. S'il ne sauve pas SNC, si SNC tombe, il va perdre beaucoup de points au Québec, là.
Ben oui. Puis il en a perdu énormément dans l'Ouest avec son pipeline.
Et voilà.
Qui n'a pas été capable d'aller de l'avant après avoir dépensé l'argent.
Fait que son élection d'octobre, mon ami,
ça s'annonce pas mal difficile. Hein?
Exactement. OK, bien, on va avoir l'occasion d'en reparler certainement demain. On va se garder un petit peu de temps, par contre, pour ta deuxième nouvelle.
Oui.
C'est quoi ta deuxième nouvelle? Ah, c'est sur la santé,
nouvelle,
là.
Moi, je trouve que le
virage, là.
Le virage que souhaite Mme Mécan a mon appui entier et total.
Bon, ça, c'est ta bonne nouvelle. Tu vas nous en parler tout de suite après la pause.
Drainville PM. La voix est libre.
Nous, on aime mieux la collaboration, la négociation, arriver ensemble à l'objectif. Mais notre objectif, il est ferme. Et évidemment, on va prendre une autre voie si c'est pas possible. Mais on aimerait mieux cette voie de collaboration.
Alors, c'était la ministre Mécan, Luc, qui dit « Moi, je veux en arriver à une entente avec les médecins pour donner plus de pouvoir aux infirmières, mais si on n'est pas capable de s'entendre, je vais passer une loi pour l'obliger. » J'haïs pas ça, moi.
J'ai pas haï ça, moi, non plus. Puis je l'ai eu en entrevue à notre émission de Québec, Mme Mécan. Puis j'ai dit, je sais pas, Mme Mécan, si j'étais vous, je m'arrangerais pour que la loi soit déjà prête, là, parce que vous êtes pas la première à souhaiter plus d'implication de la part de celles qu'on appelle les infirmières praticiennes spécialisées, que les gens appellent communément super infirmières.
Parce qu'elles ont fait 7 ans.
Sept ans d'études. Et ça fait longtemps, là. J'ai déjà entendu des ministres de la Santé dire ça. Je sais pas, moi, 4-5 qui sont tous en faveur de ça, il n'y arrive jamais rien.
Ah.
Parce que la Fédération des médecins omnipraticiens veut rien entendre.
Et le Collège des médecins, pas bien mieux. M'a dit, le matin, là, tu l'écoutais, là, le nouveau président, il est là depuis 3 mois, là. M'a dit, il a pris les plis rapidement.
Non, mais c'est stupide.
Ils sont bien ouverts à la discussion. À l'amélioration dans la collaboration ou dans la collaboration pour l'amélioration.
Ouais, c'est surtout dans le corporatisme, au nom du corporatisme et de la protection des intérêts pécuniers. En fait, ils réalisent pas qu'ils sont en train de se faire percevoir comme une gang de professionnels qui sont essentiellement motivés par la cupidité.
Oui, mais je pensais que c'est avec l'argent qu'il y avait eu, là, que là, il y aurait, mettons, une petite place pour jeter un peu de lest là aux infirmières et aux pharmaciens parce que là il y en a du bacon là, ils ont de quoi bien vivre là pour un petit bout de nos médecins là. Il me semble qu'ils pourraient se permettre de mettre une coupe de 10 000 sur la table là en termes de d'autonomie.
Je suis même pas sûr que ça les affecterait tant que ça, Bernard. Je suis même pas sûr.
Ben c'est quoi d'abord?
Quand tu fais dans le corporatisme qui est une forme extrême de protectionnisme,
ça devient une religion.
Ça devient une religion. Pourquoi je laisserais aller ça, moi? Écoute, là, ils vont m'enlever mes affaires, mes bébelles, ainsi de suite. Mais je pense que la ministre va dans la bonne direction. Sauf qu'elle parle aussi de donner davantage de place dans ce qu'elle appelle les soins de première ligne, c'est-à-dire vraiment les urgences puis tout ça, aux pharmaciens. Là, je dis, quelle bonne idée.
Ben oui.
J'ai dit, écoutez, Madame Mécan, j'étais en France récemment, dans le temps des fêtes, et j'ai eu un problème là, qui est récurrent, qui est un problème d'otite. Et là, il y avait une pharmacie à peu près à deux coins de rue.
C'est pour ça que tu comprends rien quand je te parle.
C'est clair qu'il y a quelque chose de même, Bernard. Alors, donc, la pharmacienne m'a donné le médicament qu'il fallait après avoir fait une espèce d'examen sommaire.
Oui.
Comme tu peux avoir des antibiotiques en France. En Espagne, où j'ai vécu, c'est la même chose. Alors, je dis ici, au Québec, est-ce que c'est ça qu'on veut faire avec nos pharmaciens? Oups, là, oups, on sent le frein, là. Par exemple, on voudrait leur permettre de faire des vaccins. Bon, mais quoi d'autre, Mme Mécan? Oups, c'est pas très, très évident. Évidemment qu'il y a une question de cash en jeu. À toutes les fois que tu vas chercher tes médicaments d'ordonnance, qui sont renouvelables au mois,
tu as
un honoraire qui est fracturé à 13 $ quelque chose, je pense.
Pour le pharmacien.
Pour le pharmacien, qui n'avait rien à voir avec ton ordonnance de toute façon, parce que c'est des assistants qui sortent ça des tablettes puis qui te donnent ça.
Mais il faut qu'ils soient payés. Le pharmacien, il faut qu'ils soient payés.
D'accord. Mais là, quand tu vas leur dire, tu vas faire des vaccins, ils vont dire, ben là écoute.
Ah, c'est sûr qu'ils vont demander de quoi?
Ils vont demander 25
Ils vont pas donner des vaccins. Ben non, c'est sûr.
Puis ensuite, si jamais tu vas plus loin puis tu fais ce qu'ils font en France, c'est-à-dire un espèce de diagnostic sommaire quand l'évidence crève les yeux puis qu'ils peuvent donner des médicaments d'ordonnance comme des antibiotiques, ben là, ils vont dire, attends une minute, là, combien tu donnes à un médecin pour faire la même chose? J'en veux autant. Alors, moi, je souhaite qu'elle réussisse. Je souhaite du fond de mon cœur qu'elle réussisse. En passant, Bernard, mon problème d'oreille est réglé depuis
que j'étais
en France.
Ça paraît
J'entends tout ce que tu me dis. J'entends tout ce que tu me dis. Puis en fait, je réalise que peut-être que ce problème...
C'est lié à ce que je te disais?
Oui, monsieur.
Ça contaminait ton oreille interne.
J'ai commencé à attraper ça quand on a commencé à faire de la télévision dans un certain réseau. J'ai mis les dates bout à bout. C'est Drainville qui me rend fou au tympan. Ça n'a pas de bon sens.
Ton oreille interne. Est attaqué par ma pensée toxique.
Ta pensée toxique, ton de voix, le mépris avec lequel tu t'adresses à moi. Parfois. Pas toujours, mais parfois.
Hey, toi, tu pars mal ta semaine. C'est juste lundi, Christy. Boy. Bon, là,
Moi, je dis bonne chance, Mme Mécan.
Oui.
Réussissez où les autres n'ont pas réussi.
Oui.
Et oui, vous l'avez, le pouvoir législatif. Et oui, les médecins seront pas contents, mais qu'est-ce que tu veux, ils peuvent pas toujours être contents. Récemment, c'était eux autres qui ont gagné le jackpot.
Bon, là, oui, justement. Là, il y en a un qui dit « J'ai un remède pour guérir tous tes bobos. » Un verre de rhum avec du gingembre puis trois Tylenol.
C'est un peu rough, ça.
Trois Tylenol, je trouve ça beaucoup. Là. Faudrait beaucoup. Bon, M. Drainville, il faudrait que vous ayez de ces médicaments. Quand M. Lavoie ne comprend rien, vous pourriez lui en donner. Tout à fait d'accord.
Une sorte de Ritalin pour Luc Lavoie, c'est ça?
Un Ritalin?
Ben oui, c'est parce qu'il paraît que ça aide à la concentration.
Ah, ben oui.
Pour que je puisse davantage me concentrer sur le contenu de tes propos, Bernard.
Réduire ton hyperactivité.
Lesquels sont le résultat d'une profonde réflexion métaphysique, hein, transcendantale. Alors, c'est comme ça qu'il y a des réflexions métaphysique et transcendantale, mesdames et messieurs. Il est devenu séparatiste!
Quand il parle de même, là, mesdames et messieurs, vous lui voyez pas le visage, à moins de regarder Facebook Live. Mais là, il a les yeux plissés, fermés, il a les mains, les poings fermés, puis là, il travaille fort.
Drainville.
Il a tout le visage, là. Bon, OK, hey.
Bonne chance, Mme Mécan. Monsieur Drainville, toujours un plaisir de vous revoir.
Toujours un
D'autant
plaisir.
D'autant plus que je vous entends mieux qu'avant.
À demain.
Bye.